Jules Verne, sans dessus-dessous, chapitre 11. Ce qui se trouve dans le carnet de J.T. Maston et ce qui ne s'y trouve plus. Le carnet, saisi par les soins de la police de Baltimore, se composait d'une trentaine de pages, zébrées de formules, d'équations, finalement de nombres, constituant l'ensemble des calculs de J.T. Maston. C'était là un travail de haute mécanique qui ne pouvait être apprécié que par des mathématiciens. Là figurait même l'équation des forces vives, V carré moins V0 carré égale 2GR carré, facteur de 1 sur R moins 1 sur R0, qui se trouvait précisément dans le problème de la Terre à la Lune, où elle contenait en outre les expressions relatives à l'attraction lunaire. En somme, le vulgaire n'eut absolument rien compris à ce travail. Aussi parut-il convenable de lui en faire connaître les données et les résultats dont le monde entier s'inquiétait si vivement depuis quelques semaines. Et c'est ce qui fut livré à la publicité des journaux dès que les savants de la commission d'enquête eurent pris connaissance des formules du célèbre calculateur. C'est ce que toutes les feuilles publiques, sans distinction de parti, portèrent à la connaissance des populations. Et d'abord, pas de discussion possible sur le travail de J.T. Maston. Problème correctement énoncé, problème à demi résolu, dit-on, et celui-ci l'était remarquablement. D'ailleurs, les calculs avaient été faits avec trop de précision pour que la commission d'enquête eût songé à mettre en doute leur exactitude et leurs conséquences. Si l'opération était menée jusqu'au bout, l'axe terrestre serait immanquablement modifié et les catastrophes prévues s'accompliraient dans toute leur plénitude. Note rédigée par les soins de la commission d'enquête de Baltimore pour être communiquée aux journaux, revues et magazines des deux mondes. Les faits poursuivis par le conseil d'administration de la North Polar Practical Association et qui a pour but de substituer un nouvel axe de rotation à l'ancien axe est obtenu au moyen du recul d'un engin fixé à un point déterminé de la Terre. Si l'âme de cet engin est irrésistiblement soudée au sol, il n'est pas douteux qu'il communiquera son recul à la masse de toute notre planète. L'engin adopté par les ingénieurs de la société, n'est autre qu'un canon monstre dont l'effet serait nul si l'on tirait verticalement. Pour produire l'effet maximum, il faut le braquer horizontalement vers le nord ou vers le sud, et c'est cette dernière direction qui a été choisie par Barbicane & Co. En ces conditions, le recul produit un choc à la Terre vers le nord, choc assimilable à celui d'une bille prise très fin. En vérité, c'était bien ce qu'avait pressenti ce perspicace Alcide Pierre II. Dès que le coup est tiré, le centre de la Terre se déplace suivant une direction parallèle à celle du choc, ce qui pourra changer le plan de l'orbite et par conséquent la durée de l'année, mais dans une mesure si faible qu'elle doit être considérée comme absolument négligeable. En même temps, la Terre prend un mouvement de rotation autour d'un axe situé dans le plan de l'équateur, et sa rotation s'accomplirait indéfiniment sur ce nouvel axe si le mouvement diurne n'eût pas existé antérieurement au choc. Or, ce mouvement, il existe autour de la ligne des pôles, et en se combinant avec la rotation accessoire produite par le recul, il donne naissance à un nouvel axe dont le pôle s'écarte de l'ancien d'une quantité x. En outre, si le coup est tiré au moment où le point vernal, l'une des deux intersections de l'équateur et de l'écliptique, est au nadir du point de tir, et si le recul est assez fort pour déplacer l'ancien pôle de 23 degrés 28 minutes, le nouvel axe terrestre devient perpendiculaire au plan de son orbite, ainsi que cela a lieu à peu près pour la planète Jupiter. On sait quelles seraient les conséquences de cette perpendicularité que le président Barbicane a cru devoir indiquer dans la séance du 22 décembre. Mais, étant donné la masse de la Terre et la quantité de mouvement qu'elle possède, peut-on concevoir une bouche à feu telle que son recul soit capable de produire une modification dans l'emplacement du pôle actuel et surtout d'une valeur de 23 degrés 28 minutes? Oui, si un canon où une série de canons sont construits avec les dimensions exigées par les lois de la mécanique, ou à défaut de ces dimensions, si les inventeurs sont en possession d'un explosif d'une puissance assez considérable pour qu'il imprime au projectile la vitesse nécessitée pour un tel déplacement. Or, en prenant pour type le canon de 27 cm de la marine française, modèle 1875, qui lance un projectile de 180 kg avec une vitesse de 500 mètres par seconde, en donnant à cette bouche à feu des dimensions 100 fois plus grandes, c'est-à-dire 1 million de fois en volume. Elle lancerait un projectile de 180 000 tonnes. Si en outre, la poudre avait une vitesse suffisante pour imprimer au projectile une vitesse 5600 fois plus forte qu'avec la vieille poudre à canon, le résultat cherché serait obtenu. En effet, avec une vitesse de 2800 km par seconde, il n'y a pas à craindre que le choc du projectile, rencontrant de nouveau la Terre, remette les choses dans l'état initial. Eh bien, par malheur pour la sécurité terrestre, si extraordinaire que cela paraisse, J.T. Maston et ses collègues ont précisément en leur possession cet explosif d'une puissance presque infinie et dont la poudre employée pour lancer le boulet de la Columbiade vers la Lune ne saurait donner une idée. C'est le capitaine Nicholl qui l'a découvert. Quelles sont les substances qui entrent dans sa composition? On n'en trouve qu'imparfaitement en trace dans le carnet de J.T. Maston, et il se borne à signaler cet explosif sous le nom de mélimélonite. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est formée par la réaction d'un mélimélo de substances organiques et d'acides azotiques. Un certain nombre de radicaux monoatomiques se substituent au même nombre d'atomes d'hydrogène et on obtient une poudre qui, comme le fulmicoton, est formée par la combinaison et non pas le simple mélange des principes comburants et combustibles. En somme, quel que soit cet explosif, avec la puissance qu'il possède, plus que suffisante pour rejeter un projectile pesant 180 000 tonnes hors de l'attraction terrestre, il est évident que le recul qu'il imprimera au canon produira les effets suivants. Changement de l'axe, déplacement du pôle de 23 degrés 28 minutes, perpendicularité du nouvel axe sur le plan de l'écliptique. De là, toutes les catastrophes si justement redoutées par les habitants de la Terre. Cependant, une chance reste à l'humanité d'échapper aux conséquences d'une opération qui doit provoquer de telles modifications dans les conditions géographiques et climatologiques du globe terrestre. Est-il possible de fabriquer un canon de dimension telle qu'il soit 1 million de fois en volume ce qu'est le canon de 27 cm? Quels que soient les progrès de l'industrie métallurgique qui construit des ponts de la T et du Force, des viaducs de Garabit et des Tours Eiffel, est-il admissible que des ingénieurs puissent produire cet engin gigantesque, sans parler du projectile de 180 000 tonnes qui devra être lancé dans l'espace? Il est permis d'en douter. C'est là évidemment une des raisons pour lesquelles la tentative de Barbicane & Co. a bien des raisons de ne point réussir. Mais elle laisse encore le champ ouvert à nombre d'éventualités particulièrement inquiétantes, puisqu'il semble que la nouvelle société s'est déjà mise à l'œuvre. Qu'on le sache bien, les dix Barbicane et Nicholl ont quitté Baltimore et l'Amérique. Ils sont partis depuis plus de 2 mois. Où sont-ils allés? Très certainement en cet endroit inconnu du globe où tout doit être disposé pour tenter leur opération. Or, quel est cet endroit? On l'ignore, et par conséquent, il est impossible de se mettre à la poursuite des audacieux malfaiteurs qui prétendent bouleverser le monde sous prétexte d'exploiter à leur profit des houillères nouvelles. Évidemment, que ce lieu fût indiqué sur le carnet de J.T. Maston à la dernière page qui résumait ses travaux, ce n'est que trop certain. Mais cette dernière page a été déchirée sous la dent du complice D.M.P. Barbicane, et ce complice, incarcéré maintenant dans la prison de Baltimore, se refuse absolument à parler. Telle est donc la situation. Si le président Barbicane parvient à fabriquer son canon monstre et son projectile, en un mot, si son opération est faite dans les conditions susénoncées, il modifiera l'ancien axe et c'est dans 6 mois que la Terre sera soumise aux conséquences de cette impardonnable tentative. En effet, une date a été choisie pour que le tir donne son plein et entier effort, date à laquelle le choc imprimé à l'ellipsoïde terrestre produira son maximum d'intensité. C'est le 22 septembre, 12 heures après le passage du Soleil au méridien du lieu X. Ces circonstances étant connues, premièrement, que le tir s'opérera avec un canon 1 million de fois gros comme le canon de 27. Deuxièmement, que ce canon sera chargé d'un projectile de 180 000 tonnes. Troisièmement, que ce projectile sera animé d'une vitesse initiale de 2800 km par seconde. Quatrièmement, que le coup sera tiré le 22 septembre, 12 heures après le passage du soleil au méridien du lieu. Peut-on déduire de ces circonstances quel est le lieu X où se fera l'opération ? Évidemment, non, ont répondu les commissaires enquêteurs. Effectivement, rien ne peut permettre de calculer quel sera le point X, puisque dans le travail de J.T. Maston, rien n'indique en quel endroit du globe passera le nouvel axe, en d'autres termes, en quel endroit seront situés les nouveaux pôles de la Terre. À 23 degrés 28 minutes de l'ancien, soit, mais sur quel méridien, c'est ce qu'il est absolument impossible d'établir. Donc, impossible de reconnaître quels seront les territoires abaissés ou surélevés par suite de la dénivellation des océans, quels seront les continents transformés en mer et les mers transformées en continents. Et cependant, cette dénivellation sera très considérable à s'en rapporter au calcul de J.T. Maston. Après le choc, la surface de la mer prendra la forme d'un ellipsoïde de révolution autour du nouvel axe polaire et le niveau de la couche liquide changera sur presque tous les points du globe. En effet, l'intersection du niveau de la mer ancien et du niveau de la mer nouveau, deux surfaces de révolution égales dont les axes se rencontrent, se composera de deux courbes planes dont les deux plans passeront par une perpendiculaire au plan des deux axes polaires et respectivement par les deux bisectrices de l'angle des deux axes polaires. Texte même relevé sur le carnet du calculateur. Il suit de là que les maxima de dénivellation peuvent atteindre une surélévation ou un abaissement de 8415 mètres par rapport au niveau ancien et qu'en certains points du globe, divers territoires seront abaissés ou surélevés de cette quantité par rapport au nouveau. Cette quantité diminuera graduellement jusqu'aux lignes de démarcation partageant le globe en quatre segments sur la limite desquels la dénivellation deviendra nulle. Il est même à remarquer que l'ancien pôle sera lui-même immergé sous plus de 3000 mètres d'eau, puisqu'il se trouve à une moindre distance du centre de la Terre, par suite de l'aplatissement du sphéroïde. Donc, le domaine acquis par la North Polar Practical Association devrait être noyé et par conséquent inexploitable. Mais le cas a été prévu par Barbicane & Co. et des considérations géographiques, déduites des dernières découvertes, permettent de conclure à l'existence au pôle arctique d'un plateau dont l'altitude est supérieure à 3000 mètres. Quant au point du globe, où la dénivellation atteindra 8415 mètres, et par conséquent aux territoires qui en subiront les désastreuses conséquences, il ne faut pas prétendre les déterminer. Les calculateurs les plus ingénieux n'y parviendraient pas. Il y a dans cette équation une inconnue que nulle formule ne peut dégager. C'est la situation précise du point X où se produira le tir et par suite le choc. Or, cet X est le secret des promoteurs de cette déplorable affaire. Donc, pour résumer, les habitants de la Terre, sous n'importe quelle latitude qu'ils vivent, sont directement intéressés à connaître ce secret, puisqu'ils sont directement menacés par les agissements de Barbicane & Co. Aussi, avis est-il donné aux habitants de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Australie et de l'Océanie de veiller à tous travaux de balistique tels que fonte de canons, fabrication de poudre ou de projectiles qui pourraient être entrepris sur leur territoire, d'observer également la présence de tout étranger dont l'arrivée paraîtrait suspecte et d'en avertir aussitôt les membres de la commission d'enquête à Baltimore, Maryland, USA. Fasse le ciel que cette révélation arrive avant le 22 septembre de la présente année qui menace de troubler l'ordre établi dans le système terrestre.